France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils se sont nourris d'actualité toute la journée, ont quitté leur foyer, délaissant une bonne soupe du soir et la chaumière confortable pour venir discuter, le tout pour un salaire mirobolant d'une bouteille d'eau. Et oui, c'est ainsi qu'on attrape les meilleurs. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Vincent Trémollet du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Également Marie-Josée Kotliki, bonsoir, de la CGT Cadre. Également Christophe Alix, bonsoir, de Libération. Et le chef d'entreprise Julien Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur de chronique d'un salaud de patron. Bienvenue dans la vraie vie d'un patron de PME, c'est chez Erol. Et ce soir, on parlera d'une appli pour fêter les 10 ans de l'iPhone. Emmanuel Macron en patrouille à Saint-Martin. Défilé et politique, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors c'est une constante, presque un héritage que l'on se transmet entre générations. Les syndicats et la police ne sont jamais d'accord sur le nombre de manifestants. On n'y arrivera pas, c'est un vrai tabou français. Pour faire simple, imaginez la CGT et le ministère de l'Intérieur ensemble dans la même voiture. D'un coup, le voyant essence clignote. Pour la CGT, c'est bon, on peut faire encore 14 000 km. Pour la police, ce serait plutôt, c'est à peine si on peut encore rouler 50 mètres. Vous voyez, on n'y arrivera pas. Première mobilisation contre la réforme du travail à la paix, donc de la CGT, FSU, Solidaires et l'UNEF, qui aurait réuni donc 60 000 manifestants à Paris selon donc la CGT, 24 000 selon la police, 8 000 pour la CGT à Toulouse, 16 000 pour la préfecture. La Palme revenant à Marseille, où la préfecture comptait 8 000 manifestants et les organisateurs 60 000. Voilà, alors là, on a un petit ratio un peu compliqué, mais le principal, c'est de s'inscrire dans l'action, selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
On a connu d'autres gouvernements qui étaient déterminés face à la mobilisation des salariés, des travailleurs, des retraités, des jeunes, ont dû reculer devant leurs projets. C'est ça l'objectif de cette première mobilisation. Nous, on pense qu'il faut réformer le droit du travail, mais pas pour retirer des droits aux salariés.
Voilà, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, cet après-midi dans le cortège parisien. Marie-Josée Kotliki, on a compté à peu près 160 000 à peu près manifestants dans toute la France. C'est un succès en demi-teinte, 160 000 ?
D'abord, on va pas faire la guerre des chiffres. On sera pas d'accord sur ces chiffres. Voilà.
D'accord.
Moi, je crois qu'en tout cas, si on compte les arrêts de grève, si on compte le nombre de cortèges, si on compte la participation massive, on a piétiné nous dans le cortège parisien. On n'arrivait pas au bout. Et le rallongement du parcours, on voit bien que c'est une réussite. Et c'est une réussite sous différents aspects. Je crois d'abord que on est approuvé par la majorité de la population, qui d'ailleurs approuve aussi notre lutte contre les ordonnances de régression sociale. Aussi l'appel à la mobilisation. Et puis on a démontré, je pense, dans ces mobilisations et ces défilés dans toute la France, qu'il y avait peut-être un seul appel au plan confédéral de la CGT, mais qu'on avait avec nous, je crois, plus de 13 fédérations de la CGC qui avaient appelé à la mobilisation, plus de 9 au niveau de Force ouvrière et les 2/3 des départements de Force ouvrière. Donc on est vraiment dans une dynamique de construction unitaire et je pense que c'est le principal enseignement.
Alors donc vous dites succès aujourd'hui de cette journée. Vous dites succès de cette journée.
Sans l'ombre d'un doute.
Vincent Trémollet, pour vous, est-ce qu'on peut dire alors succès de cette journée, 160 000 ou un peu plus, selon
Régime. On ne peut pas dire qu'on ait senti un élan collectif et national contre les ordonnances et que la CGT exprimait une angoisse qui traverserait le pays au sujet de cette réforme du droit du travail. Alors, je ne dis pas qu'il peut se passer des choses plus tard, mais on a vraiment l'impression que cette réforme, pour le moment, ne cristallise pas ce qui fait les grands mouvements sociaux, c'est-à-dire toucher au cœur d'une inquiétude collective. Pour le moment, les gens ne considèrent pas que ce que le gouvernement d'Édouard Philippe est en train de faire va mettre en péril leur stabilité au travail. Ensuite, on est seulement le 12 septembre, il y a la manifestation de Jean-Luc Mélenchon.
23, et il y en a une autre avant de la CGT.
Et
21,
je pense qu'il y a une volonté de mobilisation qui va très au-delà de ces ordonnances. Donc ensuite, il va y avoir, je pense, un bras de fer entre, le gouvernement, mais sur ces ordonnances et sur la loi travail, pour le moment, on est à peu près au chiffre des premières manifs contre la loi El Khomri. La loi El Khomri, à la fin, est passée, même si on a eu le mouvement Nuit Debout, qui a duré 333 mois, je crois, mais qui n'a rien donné. Et donc, pour le moment, c'est plutôt le gouvernement qui a gagné la partie et la CGT qui piétine. Si on doit donner ce soir un résultat.
Un résultat, oui, c'est ça. Julien Leclerc, vous, quand vous voyez ça, justement, alors vous, en tant que chef d'entreprise, quand vous entendez Philippe Martinez, ou la CGT, d'ailleurs, qui n'est pas la seule, d'ailleurs, à critiquer, il y avait la CFDT qui critiquait, qui n'a pas appelé à manifester, comment vous le sentez, vous, par exemple? Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, ces ordonnances, voilà, ça va dans le bon sens, ça peut aider, ou alors, en effet, comme disent certains aussi, peut-être même des pros qui disent que c'est pas la révolution copernicienne annoncée d'Emmanuel Macron.
Oui, je suis plutôt favorable aux mesures qui sont dans ces ordonnances, notamment par exemple l'encadrement des sommes données au prud'homme. Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens, et surtout je pense que toutes les mesures qui sont dans ces ordonnances étaient annoncées pendant la campagne. Donc il n'y a pas de grande surprise, et je vois pas pourquoi tout d'un coup on se mettrait à hurler. La seule chose sur laquelle je serais éventuellement d'accord avec la CGT, c'est il n'y a aucune mesure dans ces ordonnances qui fait que demain matin je vais me lever et je vais créer un emploi. En revanche, je suis hyper content qu'enfin on parle des PME et des TPE dans la relance de l'emploi, qui sont, faut-il le rappeler, les seules entreprises qui embauchent aujourd'hui en France.
Marie-José Cotelegui, quand vous entendez ça, justement, la part d'un chef d'entreprise?
Déjà, moi, ce que j'observe, c'est y compris le journal Challenge, hein, qui a fait un sondage parmi les employeurs, d'ailleurs, des PME et TPE, c'est que cette loi ne répond à aucune des préoccupations essentielles des PME et TPE. Premièrement, une des difficultés majeures, c'est l'accès au financement. Bon, évidemment, on n'en parle pas dans cette loi, mais on n'en parle pas non plus dans d'autres mesures. Deuxièmement, c'est effectivement le rapport avec les donneurs d'ordre, et en particulier le changement unilatéral des contrats commerciaux et le non-respect des délais de paiement, qui sont d'ailleurs responsables de plus de 30% des faillites des PME et TPE. Donc je pense que c'est pas le cas. Et puis ensuite, sur la loi travail, je pense qu'il y a un énorme problème, y compris pour les PME et TPE aujourd'hui, c'est qu'on a une loi qui va permettre une pression supplémentaire des donneurs d'ordre par rapport à ces employeurs de PME et TPE sur le dumping social. Ce sera à qui fera le moins-disant social pour décrocher le contrat commercial. On a eu la même chose pour le CICE. Hein. On a eu des notes de donneurs d'ordre qui disaient on vous baisse, on vous demande de baisser de 20% votre coût et vos factures parce que vous allez bénéficier du CICE. Et là, ce sera le dumping social et donc le dumping économique généralisé.
Julien Leclerc,
c'est le fonds de commerce de la CGT de toujours nous promettre l'enfer si des mesures passent. Il y a quand même quelque chose, c'est que la peur d'embaucher, elle est présente chez les dirigeants de TPE, PME, elle est vraiment là. Donc quand même, ces ordonnances s'attaquent à ces peurs-là qui sont réelles.
Alors, on va continuer à en parler. Dans un instant, de cette mobilisation, c'est le premier, examen social hein, pour Emmanuel Macron et son gouvernement. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le retour à la normale est une priorité absolue. C'est le credo d'Emmanuel Macron. Au chevet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le chef de l'État promet une reconstruction exemplaire après l'ouragan Irma. Le bilan est revu à la hausse. Au moins 11 morts et plusieurs blessés et disparus. Les manifestations contre la réforme du Code du travail ont rassemblé 223 000 personnes dans toute la France. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'affirme maintenant. La CGT parlait précédemment de 400 000 manifestants, 60 000 personnes rien qu'à Paris. La préfecture de police ramène ce chiffre à 24 000. Le syndicat qui parle de premiers tests réussis. 4 personnes ont toutefois été interpellées dans la capitale. 7 manifestants ont été pris en charge par les secours selon la préfecture. Il est tout de vert et plus rapide. Apple est actuellement en train de présenter son nouvel iPhone 8 et iPhone 8 Plus depuis les États-Unis. Le prix n'est pas encore connu. Ce nouveau smartphone sort au moment où le géant informatique américain souffle les 10 bougies de son téléphone. Le gouvernement prévoit l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018. La procréation médicalement assistée est une question de justice sociale pour la secrétaire d'État chargée de l'égalité, Marlène Schiappa. Une ouverture à toutes les femmes dès l'année prochaine, c'est-à-dire également les célibataires et les femmes homosexuelles. Et puis Mbappé, Neymar et Cavani titulaires face au Celtic Glasgow. Autant dire que le PSG a les capacités d'aller loin en Ligue des Champions. Première étape dès 20h45 avec ce match de phase de poule.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette première mobilisation sociale qui a eu lieu dans toute la France. Alors les chiffres varient comme toujours, même là quand même il y a un écart assez important hein, entre la préfecture et le principal organisateur de ces manifestations, la CGT. Christophe Alix, à l'instant tout à l'heure Marie-Josée Cotelegui nous disait que c'était le début peut-être d'une union syndicale, pourtant c'est pas ce qu'on a senti finalement en sortant de Matignon, on se souvient quand même de syndicats qui étaient pas d'accord entre eux.
Alors ça, c'est sûr que le front syndical aujourd'hui est désuni. Mais bon, premièrement, aussi bien chez Force Ouvrière que à la CFDT, On s'est pas montré, enfin bon d'ailleurs, une petite différence entre les deux, mais on s'est pas montré spécialement ravi de ces ordonnances. La CFDT a parlé d'une occasion manquée. Je crois quand même qu'il y avait aujourd'hui dans les cortèges un certain nombre de militants de FO, de la CFDT aussi. Je crois qu'il y en avait quelques-uns. Voilà, parce que bon, il y a les mots d'ordre des confédérations, et puis il y a ensuite la réalité du terrain. Dans les entreprises, voilà, de la base. L'autre point peut-être aussi, c'est que il semblerait, même si effectivement il y a une bataille de chiffres, on est un petit peu à un équivalent, je crois, du début de la mobilisation autour de la loi El Khomri. Ouais. On sait déjà que la CGT a déjà appelé à une deuxième journée.
Le 21.
Qu'il va y avoir également la mobilisation de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Donc, bon, on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas une dynamique qui se mette en place. Pour l'instant, elle est modeste, mais elle n'est pas totalement exclue au regard des expériences passées.
Alors, on va entendre justement alors une personne, un autre syndicat, figurez-vous, qui a défendu le texte. Et oui, c'est le MEDEF, hein, parce que c'est un syndicat, le MEDEF. Oui, Pierre Gattaz. Donc, alors, il n'était pas dans la rue aujourd'hui. On l'a peut-être, on l'a peut-être pas vu. Hein, il était avec une moustache, on ne sait pas. Alors lui, Pierre Gattaz, le patron des patrons, il ne comprend pas trop l'intérêt de ces rassemblements. On l'écoute.
Je comprends pas tellement Monsieur Martinez qui, depuis le début, presque avant la concertation au tout début, a commencé à dire je vais faire une journée alors que on était en train de même pas de commencer les concertations. Bien sûr, il y a des gens qui sont pas contents, il y a des râleurs, etc. J'entends, je vois, mais oui, mais ça va être les patrons qui vont avoir la loi. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est d'abord c'est une loi principalement pour les TPE-PME. Et deuxièmement, pour que les salariés puissent discuter avec leurs patrons, pour qu'il y ait des accords d'entreprise. Ça va quand même dans le bon sens.
Voilà, Pierre Gattaz, président du MEDEF aujourd'hui. Alors, Marie-Josée Kotlicki, quand vous entendez aujourd'hui Pierre Gattaz, là, qu'est-ce que vous répondez quand il dit « Moi, je comprends pas, parce que de toute façon, dès le début, la CGT, selon lui, s'est braquée. » C'est-à-dire, même quand on a voulu consulter, etc., lui dit, dès le début, Philippe Martinez a annoncé des consultations. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas attendu, justement, ces consultations ?
Alors, d'abord, c'est pas étonnant que M. Gattaz soit favorable donc à cette réforme et ces ordonnances de régression sociale, puisque ça répond à peu près à la quasi-totalité de ses vœux. Voilà. Ensuite, comment se sont déroulées les concertations ? Nous sommes allés dans les concertations. D'abord, on a été très surpris, puisqu'il y a eu refus d'une multilatérale, c'est-à-dire où on pouvait débattre, échanger entre l'ensemble des organisations syndicales et du MEDEF. On a eu une multilatérale à l'arraché le dernier jour, avec un texte sur table, 150 pages. Dans ces concertations, nous y sommes allés, c'est vrai, non pas pour négocier hein, le niveau de l'ampleur de la régression sociale, parce qu'on défend tout simplement l'intérêt des salariés, et on pense aussi qu'un affaiblissement du social peut mettre en difficulté les dynamiques économiques.
Ça veut dire que nous sommes venus... dès le début, ça veut dire que c'était joué quand même. Ça veut dire que dès le début, vous n'attendiez pas une négociation.
Si, on y est allé à la négociation, nous, avec des propositions et des propositions alternatives. Et aux surprises, on a été refusé et interdit de débat sur ces propositions alternatives. Donc c'est ça le problème. Et donc à partir du moment où on ne pouvait pas débattre des propositions alternatives, où on avait une stratégie quand même d'opacité du gouvernement. Très longtemps, il nous a dit que les fuites dans la presse et de lanceurs d'alerte à la Direction Générale du Travail étaient complètement erronées. Et puis, aux surprises, quand on a eu les ordonnances, on s'est aperçu quand même que c'était exactement la finalité du texte, qui était écrit une semaine après la campagne donc voilà. Donc on voit bien que c'était écrit d'avance. Et surtout, on a été interdit, je précise bien, de propositions alternatives, de débat sur ces propositions. Et on a été, y compris, insulté pour droit au désaccord, puisque c'est bien connu que nous sommes dans les dinosaures et que nous sommes contre les réformes, alors que la CGT a jamais été sur le statu quo. Et ça, c'est historique.
Oui, alors justement, on va s'entraîner dans la... entendez ça, justement.
Je pense justement que la perception collective a fait, et peut-être Emmanuel Macron a réussi ça, a fait que les gens ont compris que la CGT cherchait plus à voir dans cette manifestation aujourd'hui, à savoir, à se compter, à savoir si elle était encore un syndicat puissant comme elle l'a été hier, plutôt qu'un syndicat constructif avec lequel on peut travailler. Le fait d'avoir désuni le Front syndical lui permet, il a fait la même chose en politique d'ailleurs, lui permet de dire, bon, il reste une force de contestation, mais qui ne vit que de la contestation. Donc avec cela, on ne pourra jamais réformer. Tous les réformistes du pays, on y sont nous, on sera suffisamment nombreux. Et pour le moment, cette stratégie fonctionne, puisque et Martinez et Mélenchon apparaissent dans l'inconscient collectif comme des tribuns de la plèbe, comme des contestataires, mais pas comme des personne capable de proposer une alternative.
Marie-Josée Kotlicki, quand...
Oui, nous contestons la régression sociale, c'est une évidence. Si c'est ça être contestataire, tant mieux. Mais par contre, nous proposons des propositions alternatives. Nous sommes
oui,
nous pour
quoi,
une transformation.
C'est la semaine des 32 heures et le...
Non, non, pas seulement. C'est par exemple le droit à la déconnexion, alors qu'il y a utilisation intensive des outils du numérique, alors qu'on compte plus de 100 000 cas en France de burn-out par an, alors que la France occupe la première place en matière de consommation de psychotropes.
Mais ce point, il peut sans doute en partie se négocier, s'entendre. Et d'autre part, moi j'ai vu qu'il y avait eu récemment des décisions de cours de justice, y compris de la Cour de justice européenne, qui étaient plutôt favorables à la défense des salariés par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc enfin, les choses ne sont pas noires ou blanches dans ce domaine. Enfin, le gouvernement opposé à tout encadrement des nouvelles technologies dans l'entreprise.
On a juste un petit problème quand même quand on dit que ces questions de santé peuvent trouver un accord, parce qu'il y a justement la disparition des CHSCT avec la fusion dans une instance unique où il y aura beaucoup moins d'élus, où il y aura un éloignement...
Vous croyez que ce sera vraiment dramatique, ça, la fusion des instances...
J'y viens, si vous voulez. Où il y aura un éloignement des élus de proximité, et donc compte tenu d'une seule instance avec toutes les questions à traiter, eh bien il y aura des priorités. On sait très bien que l'employeur priorisera les questions économiques, nous les questions de l'emploi, et donc ce qui passera à la trappe, il y a fort à parier que ce seront les questions de santé aujourd'hui. Or, on est devant un problème de santé.
Alors, mais ça, c'est pas le cœur du débat.
Attendez, Christophe Alix.
Ça fait partie du débat. La santé des travailleurs aujourd'hui fait partie effectivement du débat. Oui,
Julien Leclerc, c'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs c'est un mot aussi qui revient souvent à propos de ces ordonnances, c'est le côté précarité. Précariser ou non l'employé par rapport finalement à son parcours professionnel.
Pourquoi on part du principe que l'accord d'entreprise va précariser le salarié? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on s'en fout de la santé de nos salariés? Est-ce que vous pensez vraiment ça? Une entreprise, c'est pas un patron contre des salariés, c'est ça qu'on vous reproche à la CGT. Vous arrêtez pas de dire depuis tout à l'heure, on défend les salariés. Défendez les entreprises, c'est là que sont créés les emplois, et c'est en plus un des derniers lieux de vie commune de cette société. On a envie de proposer les meilleures conditions de travail à nos équipes. Oui, on est concerné par l'intérêt général et donc par la bonne santé financière de l'entreprise. Parce que, ayant connu une entreprise qui allait très mal, j'ai dirigé une entreprise qui allait très mal, qui aujourd'hui se porte mieux, je peux vous promettre une chose, les salariés sont beaucoup plus heureux dans une entreprise qui va bien. C'est ça le premier sujet.
Alors, vous allez répondre dans un instant, je suis désolé. Je vous ai pas cliqué, vous savez, voilà. Nous,
mais je me souviendrai.
On est chef d'orgueil. Ah, mais je sais, mais souvent on se souvient, c'est pour ça, c'est important. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
223 000 manifestants contre la réforme du Code du travail. Le ministère de l'Intérieur vient de publier ces chiffres. La CGT avançait que 400 000 personnes avaient battu le pavé. À Paris, de 24 à 60 000 personnes. 7 500 à Marseille. Marseille où Jean-Luc Mélenchon et des militants de la France insoumise se sont joints au cortège cet après-midi. Le Conseil des ministres est reporté à jeudi matin. Emmanuel Macron sera demain encore dans les Antilles françaises. Le président de la République promet une cinquantaine de millions d'euros et tous les services de l'État mobilisés pour établir une situation normale. Il est actuellement à Saint-Martin et demain, retour en Guadeloupe. 4 morts après le crash d'un avion de touristes en Corse. Les victimes sont 2 couples d'Alsaciens. L'appareil, pour une raison inconnue, s'est abîmé dans les vignes près de l'aérodrome de Ghisonaccia. L'avion avait décollé de Cannes pour atteindre le sud de l'île. Au moins 370 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis la fin août, direction le Bangladesh, pour cette minorité musulmane. C'est un nouveau bilan de l'ONU à la veille d'une réunion d'urgence au sein du Conseil de sécurité. L'ONU qui dénonce un nettoyage ethnique de la part des autorités birmanes. Et puis 120 battements par minute, Barbara, Le Redoutable, ces 3 films français sont présélectionnés pour les Oscars. Un seul sera désigné mardi prochain. Il représentera la France et l'Académie des Oscars dira en janvier si elle le retient dans la sélection des meilleurs films étrangers.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, 223 000 selon la police, 400 000 selon la CGT. Voilà, ça ne change pas. Hein. On nous dit avec Emmanuel Macron qu'on rentre dans un nouveau monde. Mais là, au niveau du comptage, on n'est pas dans un nouveau monde. On est toujours dans le même. Tels sont les chiffres. Voilà les chiffres, en tout cas, de la mobilisation. Premier test social d'Emmanuel Macron. Alors, Marie-Josée Cotte-Liquide, la CGT cadre. Vous vouliez juste répondre justement à Julien Leclerc sur les patrons et leurs salariés.
Je crois quand même qu'il faut rétablir les réalités. Avant cette loi travail, rien n'interdisait de négocier dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Qu'est-ce qui va changer après cette loi travail? C'est qu'on va pouvoir négocier, notamment dans les entreprises, à la baisse. C'est-à-dire permettre de déroger à des protections qui sont contenues à la loi. J'ai dit permettre. C'est ça qui pose un problème. Voyez,
oui, mais vous
alors ensuite,
pouvoir...
sur le statut, le fait que nous ne sommes pas, nous ne nous préoccupons pas des entreprises. Eh bien, nous préoccupons beaucoup des entreprises. La preuve en est, c'est qu'au niveau de la CGT, nous travaillons aujourd'hui avec des économistes, des chercheurs, l'École des Mines de Paris et le Collège des Bernardins, pour un nouveau statut juridique de l'entreprise, permettant à cette entreprise de desserrer les contraintes des actionnaires, alors, et notamment des court-termistes, et de rétablir l'équilibre des pouvoirs entre les actionnaires, de rétablir des marges de manœuvre pour les employeurs, notamment pour conduire des projets à moyen et long terme, et de rétablir des droits pour les salariés.
Julien Leclerc.
Je vous réponds en vous donnant un exemple très concret, celui de mon entreprise, qui est dans un petit village qui s'appelle Astafort. Pourquoi je devrais respecter la grille salariale que doivent respecter toute ma branche qui est principalement située à Paris, alors que je suis dans un endroit où le coût de la vie n'a aucun rapport avec Paris? Croyez-vous vraiment que chacune des négociations que je vais mener avec mes équipes va indubitablement nous mener à leur perte et diminuer leurs conditions de travail? Moi, je les côtoie tous les jours. J'arrive le matin, je suis avec eux jusqu'au soir. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de passer pour un vrai salopard? Non. Je suis persuadé. Il faut faire confiance aux gens qui vivent l'entreprise au quotidien. Ça me semble important, faites-leur confiance. Et je suis convaincu que vous défendez l'entreprise, et je suis convaincu, je sais que vous signez la plupart des accords d'entreprise qui sont proposés. Pourquoi vous vous obstinez au niveau national à être dans la caricature systématique quand vous communiquez? C'est ça ma question.
Marie, je vous écoute.
Je vois pas en quoi on est effectivement caricatural. Nous, ce qui nous importe, c'est la protection des salariés. Et on estime qu'un salarié qui est dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise, qui est située à Paris ou dans un petit village, doit avoir les mêmes protections aujourd'hui. D'abord parce que le salarié va pas rester dans votre petite entreprise toute sa vie, vous le savez comme moi, il va bouger. Et à un moment donné, il me semble qu'il faut qu'il y ait une protection générale aujourd'hui des salariés, ne serait-ce que pour favoriser d'ailleurs leur mobilité. Et leur mobilité consentie et choisie, et ça me paraît particulièrement important. Ensuite, par exemple, je prends aujourd'hui les référendums,
s'il vous plaît.
Et l'extension des référendums. Vous savez, voilà, d'entreprise. Moi, jusqu'à présent, ça, on a déjà connu des référendums d'entreprise. Jusqu'à présent, j'ai connu, et j'ai rien contre les employeurs, franchement, j'ai connu aucun référendum qui proposait un référendum pour améliorer les conditions de travail, pour faire un droit à la déconnexion, pour augmenter les salaires, pour augmenter le temps de travail. Par contre, j'ai connu des référendums qui opposaient des catégories
vous
de salariés entre eux,
pour
des catégories de salariés entre eux, des référendums. Je parle, des catégories entre eux pour une baisse des salaires et un chantage à l'emploi.
Vous parlez
et bien
de
c'est
Smart,
ça qui nous pose un
ça,
vrai problème.
Par exemple,
mais pas seulement.
J'ai juste une petite question.
Est-ce
qu'il nous resterait peu de temps, Vincent Trémollet, au niveau politique rapidement? On a vu dans cette manifestation, dans ces manifestations, il y a un mot qui est revenu très souvent sur les pancartes, c'est le mot feignant, celui prononcé par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, juste bravo à ce manifestant qui avait écrit sur sa pancarte trop feignant pour trouver un slogan. Voilà.
Magnifique.
En tout cas, voilà, exactement celui-là.
Celui-là a du talent.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se souvient des manifestations contre la loi travail sous François Hollande. Était ciblée la ministre du Travail, Myriam El Khomri, s'était associée. Là, on ne parle pas de Muriel Pénicaud, on parle d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que c'est lui, véritablement, qui incarne tout.
Le mot est de lui, déjà.
Ouais. Le mot est de lui, et on en a parlé d'ailleurs ici. Je ne pense pas que la loi travail crée un trouble suffisant dans le pays pour créer un mouvement social. En revanche, il y a en France, la France est traversée par des inquiétudes, et notamment des inquiétudes économiques, et l'utilisation de ce type de terme peut construire petit à petit, sédimenter quelque chose qui pourra ressembler à une colère sociale, parce qu'il y en a eu plusieurs de la part d'Emmanuel Macron. Donc, il me semble que c'est une très grande maladresse d'avoir prononcé ce terme il y a 3 jours. Il s'est expliqué depuis, mais ça a donné, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon s'en est emparé dans la minute, ça a donné un slogan à une manifestation qui, pour le moment, n'en avait pas. Ça n'a pas été suffisant, mais peut-être qu'une prudence sémantique pour le chef de l'État serait de bonne loi.
Christophe Alix.
Hier, dans Libération, on s'est amusé à faire un scénario un petit peu noir. On a fait un papier qui s'appelait un article. C'était « Vie ma vie » de Fainéant. Oui, et on a essayé d'explorer, vraiment en allant chercher dans les détails, toutes les possibilités que donnerait la réforme du Code du Travail. Et on se rend compte que dans les entreprises en difficulté, là où ce serait difficile, il y aurait quand même, disons, moins de garanties pour les salariés et la possibilité de changer un certain nombre de points. Muriel Pénicaud, aujourd'hui, a dit « On est sur la première étape d'une flexi-sécurité à la française ». Une flexi-sécurité, c'est un donnant-donnant. D'un côté, il y a plus de flexibilité dans l'entreprise.
Terme,
bah, c'est un terme scandinave. Mais de l'autre côté, il y a plus de sécurité pour les salariés. Mm. Cette partie sécurité pour les salariés, je crois qu'il reste aussi au gouvernement à la construire, notamment sur le volet formation. Et il n'est pas évident qu'ils puissent aller aussi loin qu'il ne le dise, parce qu'il n'aura sans doute pas assez d'argent pour réformer très efficacement le système de la formation en France.
Oui, ils seront confrontés quand même à la difficulté qu'ils conçoivent des lois qui ne s'appliquent pas eux-mêmes, puisque la flexi-sécurité s'arrête quand on rentre dans la fonction publique.
Exactement. Allez, il est temps pour nous, en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Josée Kotlicki de la CGTK, d'être passée ce soir aux informés de France Info. On aura l'occasion de suivre votre actualité, puisqu'il y a encore une autre manifestation. Nous, on revient dans quelques minutes en parlant, bien sûr, de la situation aux Antilles.
Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant?
Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe.
Ouais, et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs au Brésil et en Russie.
Ah bah moi, grâce à tous mes gigas, je peux travailler sereinement avec mes clients aux States, hein.
Ah ouais, tu parles anglais toi maintenant?
Avec Orange, travaillez plus facilement avec l'international grâce à la gamme Performance Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Nous sommes avec Michel, qui tente en ce moment même de résister à l'offre crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Il souffre. Va-t-il résister encore longtemps?
Il se pourrait bien que j'en profite.
Et ben voilà.
Difficile de résister. Du 15 au 23 septembre, le crédit à 0% est disponible sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 10% d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total du 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
La journée s'annonce bien maussade demain à cause du passage d'une perturbation. Des frontières du nord à la Bretagne et aux Charentes, jusqu'au Limousin, à la Bourgogne et au nord-est, le ciel sera bien encombré, avec quelques pluies faibles ou averses par endroits. Des pluies plus marquées arroseront les régions allant du nord-Lorraine au bassin parisien et à la Picardie jusqu'au nord-Bretagne. Cette perturbation donnera également une ambiance bien ventilée avec de plus fortes rafales le long de la Manche. Ce sera mieux sur le sud, des plages de l'Aquitaine au sud du Massif central, au Lyonnais et au nord des Alpes. Les éclaircies du matin deviendront plus franches demain après-midi. Les Pyrénées et les régions méditerranéennes bénéficieront d'un soleil plus généreux. Demain après-midi, les températures atteindront 16 à 23 degrés sur la moitié nord et 21 à 28 degrés, voire localement plus, sur la moitié sud. Excusez-moi.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Manifestation un peu partout en France contre les ordonnances du gouvernement Philippe réformant le code du travail. Première épreuve de la rue pour le quinquennat Macron. Dans le cortège parisien, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce sont les syndicats qui ont mené le cortège CGT en tête. En dehors des réformes, les feignants de Macron, cinq jours après, font encore réagir. À l'image de Daniel, retraité et militante de la centrale CGT.
Il a beau se raccrocher aux branches en disant que c'était pas nous qui étaient traités de feignants, mais évidemment que si. Je veux dire, faut pas non plus nous prendre pour des cons, excusez-moi l'expression. Mais je veux dire, moi j'ai bossé 46 ans, je me considère pas comme une feignante, ni comme une extrémiste. Je défends simplement des choses, et je défends une autre vision de la société, qui n'est pas celle de l'argent pour quelques-uns, et puis pour les autres, on baisse les APL, on baisse tout ça pour faire des cadeaux plus riches.
Une retraitée dans le défilé parisien, comme d'habitude c'est la guerre des chiffres, 400 000 participants au cortège dans toute la France d'après la CGT, 223 000, quasiment moitié moins selon le ministère de l'Intérieur. Des heurts ont éclaté notamment à Paris, à Lyon et à Nantes. Dans la capitale, 4 personnes ont été arrêtées. Et puis plusieurs dizaines de camions de forains ont perturbé la circulation à Paris, aux abords d'autres villes de France en cette journée de manif. Des forains qui protestent contre une ordonnance imposant aux maires d'organiser organiser désormais un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Emmanuel Macron aux Antilles, le chef de l'État, promet une reconstruction exemplaire avec pour priorité le retour à la vie normale sur les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour lui, l'anticipation a été complète. Emmanuel Macron, qui se dit favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire réclamée à la fois par la droite, la France insoumise et aussi le Front national. Une enquête ouverte contre Arkema aux États-Unis. L'agence américaine de l'environnement veut savoir si l'usine du groupe français au Texas a respecté la réglementation en matière de sécurité. Les inondations de l'ouragan Harvey avaient provoqué plusieurs explosions sur le site. Le groupe électroménager Whirlpool annonce lui avoir signé un accord avec une entreprise de Picardie pour la réindustrialisation de son site d'Amiens, promis à la fermeture en juin prochain et la création de 277 emplois sur place à terme. Un dénouement bien accueilli par les syndicats. C'est un record pour ce type d'élection. Le Sénat a enregistré près de 2000 candidatures pour les 171 sièges qui seront renouvelés dans 12 jours. Maintenant, le 24 septembre précisément. 20h33 sur France Info, les informés. Suite et fin.
Les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info qui se rhabillent, oui, jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et à la marelle de l'actualité, ils ont atteint le ciel sans aucun souci. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Vincent Trémollet du Figaro, Christophe Alix de Libération, le chef d'entreprise Julien Leclerc, et nous a rejoint le communicant Jacques Isabello. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Alors j'en profite justement parce qu'on parlait à l'instant de cette loi travail, du mot feignant. Vous avez signé une tribune aujourd'hui d'ailleurs dans le Figaro sur les injures en politique. Et là, vous m'avez ramené un papier tout à l'heure pour me dire que le mot feignant, c'est pas nouveau finalement en politique française.
Écoutez, la dernière fois où ça a été utilisé, où ça avait choqué l'opinion, c'était, vous vous rappelez, certains Maurice Taylor qui avaient tenté de rappeler ce qu'on appelle Goodyear Nord, hein, c'est-à-dire enfin l'usine d'Amiens Nord qui s'appelle Goodyear, parce qu'Amiens Sud, c'est Dunlop. Et à un moment, il était tellement agacé parce qu'il n'arrivait pas à mettre la main sur cette usine, aux conditions qu'il voulait pour son groupe. Il avait dit, de toute façon, les travailleurs français sont des feignants. Mais instantanément, je me rappelle quand un grand quotidien économique, dont on ne donnera pas le nom pour ne pas vexer Vincent, avait mis la lettre sur son site internet. Ça avait fait 3,5 millions de connexions. Ouais. Ils avaient fait péter les serveurs. Et rappelez-vous cette polémique incroyable à l'époque.
C'était Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie.
Et c'était Arnaud Montebourg qui était en charge du dossier. Tout ça pour dire que quand on commence à aller sur ce terrain des injures ou des insultes, eh bien, c'est une forme de communication qui ne donne pas beaucoup de résultats et qui ne donne pas de bons résultats.
Juste une chose, on va en parler là tout de suite d'Emmanuel Macron, bien sûr aux Antilles, mais pour vous, le mot feignant, c'est réfléchi, c'est mort,
tout le monde l'a dit. Non, alors si c'est instinctif, ce sont des instincts qu'il faut balayer. Le chef de l'État, il est le garant des institutions, il est le président de tous les Français, blablabla, on l'a tous dit. C'est vrai que pour l'instant, la séquence était géniale. Il avait appliqué la loi Larcher, hein, une bonne négociation. Il s'est fait élire sur un programme de réforme. Et puis il dérape pas uniquement avec feignant, il dit aux gens le pays est irréformable. On a envie de dire attends camarade, mais on t'a élu parce que tu nous avais dit que t'étais un réformiste. Donc les gens veulent des réformes. Première étape. Deuxième étape, il se mélange les pinceaux en utilisant des termes très très désagréables. Et le problème, et c'est ce que je note un peu dans la tribune, c'est que l'injure, elle ne s'applique à personne. Donc quand elle ne s'applique à personne, eh bien elle s'applique à tout le monde. Et là finalement, cette très bonne mécanique qu'il avait mis en place, il est en train de se faire un croc en jambe à lui tout seul. Et vous le voyez bien dans les émissions, dans les JT, on prend un moment pour parler du terme de feignant plutôt que de rentrer dans la réforme et d'opposer des gens qui sont spécialistes, Julien d'un côté et votre correspondante de la CGT.
En tout cas, les manifestants ont trouvé leur slogan.
Ah bah, exactement. Alors, il ne faudrait pas que ce soit son casse-toi pauvre con à lui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, le fainéant, on va le mettre à toutes les sauces. À un moment, en arrivant, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais dire à Jean-Mathieu Pernin et à tous vos auditeurs feignants, vous voyez, pour plaisanter un peu.
Merci.
Le problème, c'est qu'il risque de se le voir coller à toutes les sauces. Et le président Macron, eh ben, il n'en est pas à ses premières outrances comme ça. Hein, rappelez-vous, le taux de natalité en Afrique, il nous a fait les îles Tête Gade, il nous a fait les alcooliques du nord de la France.
Là, voilà. C'est moins grave quand même, parce que, encore, vous l'avez dit, Il l'a appliqué à personne. Moi, je me suis pas senti concerné personnellement. Après, c'est vrai qu'on avait eu droit le 8 mai dernier, on avait eu droit à un affligeant. Nous ne serons jamais des winners connards. Et là, on a eu droit, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, à plutôt fainéant que dirigeant, ce qui vous en doutez m'a beaucoup plu.
Alors voilà. Alors justement, Emmanuel Macron,
j'imagine, Julien.
lui-même n'était pas en métropole lors de ces manifestations, puisque il est arrivé à l'aéroport de Pointe-à-Pitre à 6h heure locale, 11h45 en métropole. Le temps de changer de chemise et hop, un point près sur le tarmac, bien sûr, pour parler des ravages de l'ouragan Irma. Le président de la République a joué la fibre historique en expliquant que l'approvisionnement de Saint-Barthélemy et Saint-Martin depuis la Guadeloupe était tout simplement l'un des plus grands ponts aériens depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça en impose. Il a ensuite parlé retour à la normale, si cela peut s'entendre, de retour de scolarité, de service de l'État. Alors que depuis dimanche, l'opposition s'interroge sur une éventuelle lenteur d'action du gouvernement après le passage d'Irma, le chef de l'État s'est montré confiant face à la création d'une commission d'enquête parlementaire, Emmanuel Macron.
Je suis en général favorable à ce que le Parlement ait une fonction d'évaluation de l'action du gouvernement. Je dis simplement que toutes celles et ceux qui mettent leur énergie à créer des polémiques devraient la mettre à se demander comment ils peuvent aujourd'hui aider leurs concitoyens. Ensuite viendra le temps de l'évaluation. On ne va pas créer de commission d'études ou d'enquête parlementaire alors que le rôle de tous les services de l'État, c'est d'être là.
Voilà, Emmanuel Macron, donc à son arrivée à Pointe-à-Pitre, Vincent Trémollet, Emmanuel Macron qui a dit « Nous ne pouvions pas anticiper ce qui n'est pas anticipable ». Est-ce que ça clôt la polémique, ça, cette phrase ?
Non, ça la clôt pas, ça devrait. Parce que si vous voulez, il y a un moment où un ouragan ne peut pas être imputé à un gouvernement quel qu'il soit. Ensuite, ce qui s'est passé derrière, les difficultés qu'il y a pu avoir derrière, si elles existent et si elles sont le fait de l'État, elles ne sont pas le fait de ceux qui gouvernent depuis 6 mois. Ça veut dire qu'il y a eu des décisions qui sont prises depuis des années dans la France des oubliés, qui fait que les services de l'État ont été réduits. Donc là, on est vraiment dans la polémique créée par l'information continue et la nécessité pour un chef d'État de tout tenir, de tout protéger, et c'est à peu près intenable. Alors, il avait essayé le surplomb jusqu'ici. Là, il va dans l'arène, il répond sur les feignants, et là, il répond sur la commission d'enquête parlementaire. Peut-être aurait-il dû prendre une attitude supérieure en disant, face à une tragédie et à un dérèglement climatique comme celui-là, je ne vois pas ce que vous pouvez attendre de moi. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui, dans l'histoire de Saint-Martin, qui touche pour le coup à l'inconscient collectif, c'est la crainte de ce qui pourrait arriver si l'État disparaît ou recule. Et là, c'est-à-dire la loi du plus fort, les pillards, et ça, je pense, ça frappe énormément les gens. Et là, l'autorité de l'État doit s'affirmer très vite et très fort.
Oui, Jacques Isabello, ce déplacement d'Emmanuel Macron, il était attendu quand même de pied ferme, et en même temps, beaucoup d'habitants disaient que ce n'est pas forcément Emmanuel Macron dont on a besoin.
Oui, mais que les gens soient en colère, c'est normal. Il faut que la colère s'exprime. Ils ont été choqués. Donc, comme tous les gens qui ont été choqués, il faut les faire verbaliser. Après, que le président de la République se déplace, c'est aussi normal. Vous savez, nous, on a des grandes angoisses en communication et notamment sur ces terrains-là. Notre angoisse, c'est Katrina 2005. C'est la FEMA qui s'était totalement plantée pour des raisons dans lesquelles on va pas rentrer. Et l'administration Bush avait été totalement discréditée. Alors, ils avaient beaucoup de temps à réagir, beaucoup de temps à se déplacer. Donc, il faut qu'ils viennent montrer de l'empathie et dire aux gens, je suis là, je vais vous écouter et je vais faire mon possible. Et mon gouvernement et tous ceux qui sont avec moi vont faire leur possible. Donc, c'est bien qu'ils viennent, c'est bien qu'ils entendent. Ce qui est un peu dommage, je rejoins le propos de Vincent, c'est qu'il essaye de répondre, il essaye de dire qu'ils ont pas mal fait. C'est pas son job. Les gens veulent le toucher, ils veulent le voir, qu'ils les écoutent, qu'ils les laissent exprimer leur colère. Et puis, ça va se passer.
On va continuer à en parler justement de la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Avec la traditionnelle guerre des chiffres après les manifestations contre la réforme du Code du travail, 223 000 personnes ont battu le pavé selon le ministère de l'Intérieur, plus de 400 000 selon la CGT après les défilés à Paris, Marseille, Nice, Lyon. Une mobilisation très mesurée, bien en deçà de ce qui a pu exister contre la loi El Khomri. C'est l'avis d'Aurore Berger sur France Info, députée La République En Marche est favorable à cette réforme. Emmanuel Macron fait étape à Saint-Martin pour sa visite aux Antilles françaises. Ravagée par Irma, le chef de l'État participe à une patrouille des forces de l'ordre déployées et demain, retour en Guadeloupe. Emmanuel Macron qui a promis dès son arrivée ce matin une 50aine de millions d'euros pour les îles sinistrées. Il est tout en vert et plus rapide. Apple est en train de présenter son nouvel iPhone 8 et iPhone 8 Plus depuis les États-Unis. Ces smartphones auront des appareils photo plus puissants avec des possibilités de réalité augmentée. Le prix n'est pas encore connu. La Cour constitutionnelle d'Espagne rejette l'idée d'un État catalan. Elle suspend la loi catalane votée la semaine dernière pour un référendum à l'autodétermination, la création d'un État catalan indépendant. Et puis du football, l'an dernier, le PSG n'avait pas dépassé les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, victime d'une remontada barcelonaise. Dans 5 minutes, les footballeurs parisiens se mesurent au Celtic Glasgow. Un PSG plus fort ce soir avec sur la feuille de match Neymar, Mbappé et Cavani.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Emmanuel Macron est donc à Saint-Martin ce soir. Il est arrivé en Guadeloupe et ensuite il s'est approché de l'île française ravagée hein, par le cyclone Irma. On ne sait pas exactement à combien vont s'élever les dégâts, mais on le sait déjà qu'il y a 11 morts dans les Antilles françaises. Julien Leclerc, Emmanuel Macron est venu avec le ministre de l'Éducation, la ministre de la Santé, il y a déjà la ministre des Outre-mer sur place. C'est ce que disait Vincent Trémolla avant, c'est important pour montrer qu'il y a une présence de l'État, que l'État n'abandonne pas ses concitoyens.
Oui, s'il n'y va pas, je pense qu'on débat sur le fait qu'il se contrefiche de ce qui se passe là-bas. C'est le plus haut représentant de l'État, il est hyper important, il y a une catastrophe sans précédent, il est hyper important qu'il y soit présent. Et puis en plus, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il avait de mieux à faire, peut-être écouter le millième jour de grève de la CGT en cette rentrée. Ça n'a peut-être pas plus d'impact que finalement une rencontre avec Angela Merkel où c'est que de la com aussi et le vrai boulot il est fait ailleurs et pourrait le faire au téléphone, mais c'est hyper important qu'il soit là et je pense qu'il y aurait, l'opposition serait la première vent debout s'il n'y avait pas été à lui reprocher de, encore une fois.
Et la grande difficulté devant laquelle il est, on va prendre un exemple. Jeudi dernier, il prononce son discours devant l'Acropole qui est un vrai discours programmatique très important sur la construction européenne avec le dépassement de l'État-nation comme cadre politique. C'est pas rien comme événement. Oui. En même temps, il y a eu les conséquences d'Irma. Les journalistes se passionnent pour la tenue de Brigitte Macron et on lui demande d'être là et de ne pas être là à la fois. Et comment on hiérarchise? Comment il hiérarchise? C'est pas possible. Et donc maintenant, il avait réussi jusque-là à être en surplomb des événements et maintenant il les poursuit en essayant de répondre à une demande qui est médiatico-opinion publique, on ne sait pas bien. Alors il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement, mais ça peut dériver vers ce que faisait Sarkozy, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un événement, il était présent, mais sans avoir de réelle influence sur les choses.
Président, alors Christophe Alix, c'est aussi une chose, Emmanuel Macron en parlait, ça veut dire, il y a un moment dans son discours, sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, il expliquait, il disait aujourd'hui, c'est le résultat d'années et des années de non-réflexion autour des Antilles, etc. Est-ce que finalement il y aura un avant, un après, qu'aujourd'hui, on sait toujours qu'on s'intéresse aux Outre-mer quand il y a une catastrophe, mais sinon, en dehors de ça, on en parle très peu. Il y a toujours ce sentiment d'enfant délaissé presque de la République.
Je rejoindrai un peu Vincent. Enfin, là, on a l'impression qu'il essaie de déplacer le terrain sur un autre sujet. On sait bien que la situation des Antilles, économiquement, socialement, en termes d'habitat, elle n'est pas évidente. La France soutient quand même pas mal les Antilles. Il y a beaucoup de dispositifs fiscaux. On a plus construit ces dernières années aux Antilles. On a quand même sécurisé un certain nombre de dispositifs. Il faudrait quand même pas que Emmanuel Macron fasse croire qu'il y a un avant et un après aux Antilles. Oui. On l'a vu il y a pas longtemps avec le mouvement qu'il y avait eu en Guyane. Et on avait vu effectivement les écarts de développement absolument abyssaux entre la métropole et la Guyane. Effectivement, ça ne date pas d'hier. Maintenant que Emmanuel Macron nous explique qu'il va y avoir un avant et un après et que à l'occasion là de cet événement malheureux, on va complètement revoir les relations entre la France, entre la métropole, pardon, encore une fois, et les dom-tom. Ça attention. Paraît quand même peut-être un peu. Enfin voilà, c'est une manière peut-être de déplacer le sujet. Moi, ce que j'ai vu comme premier sujet, c'est que apparemment, on a un vrai risque maintenant qu'il puisse pas y avoir de scolarité pendant des mois, voire une année complète à Saint-Martin.
Le président de la République a parlé de temps de gonflable même pour les écoliers, qui vont arriver.
Ça, c'est les vrais soucis.
Jacques Isabello.
Juste un point rapide. Rappelons quand même que la France est observée de l'étranger. Et quand c'est Madame Girardin qui s'occupe du dossier, c'est super. Mais quand c'est le président Macron, la presse internationale va en parler. Hein, quand Donald Trump est allé directement à Houston, on en parle, on regarde. Si c'est quelqu'un d'autre que Macron qui va, bon, ça n'imprime pas dans la presse étrangère. Oui. Il faut que les gens se disent, OK, il y a une catastrophe dans aux Antilles françaises. Le président Macron est là, il plaît à l'étranger, on sait qu'il plaît aux journaux. Bah, on a l'impression qu'on gère bien les choses et ça imprime mieux auprès de l'opinion internationale et c'est aussi important.
Julien Leclerc, rapidement.
C'est vrai qu'il avait dit qu'il prendrait de la hauteur et que finalement, il est présent sur tous les sujets, un peu à la façon de Sarkozy.
Ça nous avait fait bien rire, nous les communiquants, on en parlera.
En même temps, ce mec, il a beaucoup plu parce qu'il mouille sa chemise. Et aujourd'hui, alors les médias sortent qu'il va dormir sur un lit de camp. Ça plaît, c'est vrai que ça plaît. Et on a envie de le voir là, on se dit, ben, au moins, il est sur le terrain. Et encore une fois, s'il n'y est pas, mais on hurle, quoi. On hurle, c'est inacceptable s'il n'y est pas.
Alors, bien sûr, vous pourrez suivre tous les développements autour de la visite d'Emmanuel Macron, bien sûr, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et puis, bien sûr, dans le reste des éditions, l'évolution de la situation. On va parler d'une chose qui concerne également toute la société maintenant, puisque, souvenez-vous, il y a 10 ans, et oui, vous utilisiez des cartes routières que vous n'arriviez pas à replier. Et oui, souvenez-vous, il y a 10 ans, je t'envoie un message, était le signe d'une rencontre au charme désuet, en fait, puisqu'il s'agissait d'un télégramme. Souvenez-vous, il y a 10 ans, prendre un selfie dans la rue, c'était l'assurance d'être regardé comme un être étrange, pointant son appareil photo dans le mauvais sens. Oui, il y a 10 ans, nous n'avions pas d'iPhone. Voilà, l'appareil qui a démocratisé les smartphones. Aujourd'hui, Apple organisait une convention un peu spéciale, bon, c'est sa traditionnelle keynote, avec un pain surprise de luxe, en fait, en gros, puisque 2 nouveaux iPhones, vous l'avez entendu, pour l'anniversaire d'un objet qui a changé nos vies. Il faut juste imaginer quand même la réunion où Steve Jobs a dit à ses collaborateurs, vous savez les gars, on pourrait mettre un appareil photo avec un téléphone. Je suis sûr que ça a marché. Voilà. Bon, je ne sais pas comment les gens l'ont regardé. On va rajouter un peu d'internet et tour est joué. Jackie Isabello, est-ce qu'on peut dire que là, ce soir, alors, il y a des nouveaux iPhones ce soir. Les prix, quand on voit, on traîne un peu sur internet, sont assez délirants, parce qu'on arriverait, voilà.
C'est quasiment un SMIC.
Exactement, presque maintenant.
On parle d'un nouveau modèle à 1 000 dollars.
1 000 dollars. Voilà, 1 000 dollars. On peut dire qu'il y a eu une sorte d'accélération du monde il y a 10 ans ou pas.
Et puis rappelez-vous aussi, je ne sais pas comment on peut le dire, mais un Walkman, puisque à l'époque, on s'est dit, ouais, je vais écouter de la musique avec mon téléphone, ce qui était quand même très très compliqué à l'époque. Ouais, je vais le prendre sous l'angle un peu économique. C'est une réussite économique exceptionnelle. Hein. C'est 750 milliards de revenus depuis 10 ans. C'est 1 milliard 200 millions de téléphones vendus. C'est une entreprise qui est richissime, hein, qui a une capitalisation boursière supérieure à aucune autre pareille. Mais en même temps, c'est une boîte qui vit de plus en plus sur un seul produit, qui est un produit hallucinant. C'est vrai que ça a changé notre vie. On râle sur les batteries, mais en même temps, on passe pas. Moi, je sais que je passe pas 5 minutes. Je vais faire une confession, on est entre nous. Mais moi, je vais même aux toilettes avec mon téléphone pour écouter la radio. Donc, c'est un objet d'addiction totale. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Je ne me sens absolument pas coupable.
Ouais, c'est terrible, en fait, de savoir ce que font les auditeurs pendant qu'ils écoutent les informés. Vincent Trémollet, juste une chose. Après, on parlera du côté économique, mais pour les métiers de l'information, comme Christophe Alix, moi, vous êtes journaliste, ça a changé, en fait, mine de rien, parce qu'aujourd'hui, on reçoit des informations directement sur nos portables. On sent quand même aussi des métiers qui ont évolué en fonction de ce petit appareil.
Moi, j'ai un souvenir précis de quand j'avais 10 ans ou 12 ans, il y avait un dîner l'été, il y avait toujours un médecin et le médecin avait un bip et il était bipé. Les gens disaient, mais quelle horreur, il doit se lever un samedi soir pour aller répondre. Et bon, après, les journalistes avaient un peu ça et maintenant tout le monde a ça. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est bipé. Et donc, il y a un enjeu important, c'est quand même la transformation sociale. C'est-à-dire que c'est un outil. Saint-Exupéry disait un outil, ça s'apprivoise. Et quand c'est pas apprivoisé, c'est quand même une micro-barbarie. Parce que vous parlez avec quelqu'un, il répond au téléphone, vous avez les conversations des gens dans la rue, ou les gens qui se prennent en photo, la perche à selfie, qui est peut-être l'objet le plus laid inventé depuis le début de l'histoire.
J'allais en parler dans un instant, depuis le début de l'histoire de l'humanité.
Donc, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il y avait un jour un débat entre Laurent Alexandre et Eric Sadin. Donc, Laurent Alexandre qui parle beaucoup d'intelligence artificielle, et Eric Sadin qui disait que cet objet était très dangereux. Et à la fin, Laurent Alexandre a pris le téléphone d'Eric Sadin et mis dans la poubelle. Et Eric Sadin l'a récupéré. Et il a fait qu'on ne peut pas vivre sans. Donc, bon, voilà. Il faudrait arriver à l'apprivoiser, peut-être créer un guide du savoir-vivre avec le téléphone, le smartphone.
Est-ce qu'il a fait une photo de la poubelle ou pas? Non, c'est pas ça, vous savez pas encore. On continue à en parler dans un instant, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
La CGT parle de tests réussis avec 400 000 manifestants dans toute la France, 223 000 manifestants pour le ministère de l'Intérieur. Bilan d'une journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail. La police recense 5 400 participants à Lyon, 7 500 à Marseille. Marseille où Jean-Luc Mélenchon et des militants de la France insoumise se sont joints au cortège. Opération Escargot, cette fois autour de Paris, Toulouse, Lyon, Strasbourg. Ce sont les forains qui ont donné de la voix, des camions par dizaines pour protester contre une nouvelle procédure. Elle impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour la mise en place des foires et tout emplacement public d'animation. Le retour à la normale est la priorité absolue, le credo d'Emmanuel Macron au chevet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le bilan est revu à la hausse, au moins 11 morts et plusieurs blessés disparus. Le chef de l'État promet une reconstruction exemplaire après l'ouragan Irma. Pour la 8e fois, l'ONU vote des sanctions contre la Corée du Nord aujourd'hui après les tirs de missiles. Sanctions à l'unanimité du Conseil de sécurité. Et l'ambassadeur de Pyongyang se montre menaçant, il se dit prêt à faire usage de toute forme de moyens ultimes. Et puis les banques victimes d'Internet, plus de 9000 agences bancaires ont fermé en 2016 dans l'Union européenne, 50 000 emplois en moins, le record est en Grande-Bretagne, 760 agences ont été perdues selon la Fédération bancaire européenne. Pour s'en sortir, des banques fusionnent ou bien font payer plus de services à leurs clients.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, juste avant de continuer, on va aller prendre l'air du vestiaire et du camphre, puisqu'on va partir à Glasgow, où le PSG dispute ce soir face au Celtic son premier match en Ligue des Champions. On rejoint sur place Sébastien Hazard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le PSG a-t-il aligné son Hall of Fame ce soir ?
Exactement, ouais, avec toutes ces stars, hein. Cavani à la pointe de l'attaque, Neymar sur un côté, Mbappé sur l'autre, ce sont les recrues stars évidemment du Paris Saint-Germain, il y a également Daniel Alves, il y a tous les bons joueurs du Paris Saint-Germain. Le score est toujours de 0-0 entre les deux formations dans une ambiance assez exceptionnelle qui donnait véritablement des frissons tout à l'heure lorsque les 60 000 spectateurs du Celtic Park ont chanté You'll Never Walk Alone, et puis quand ils ont applaudi l'hymne de la Ligue des Champions, censé pousser leurs joueurs, mais pour le moment il y a toujours 0-0 entre les deux formations, 7 minutes de jeu.
Merci Sébastien Hazard, on vous suit tout au long de la soirée sur France Info pour le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc face au Celtic Glasgow. Nous parlons encore quelques minutes de cet anniversaire l'iPhone. Il y a une keynote en ce moment, la fameuse réunion d'Apple qui montre ses nouveaux produits. Christophe Alix, on disait en effet c'était une société aussi Apple qui avait vraiment explosé avec notamment ce petit appareil, ce téléphone, qui a fait aussi récemment quand même, ça veut révolutionner le monde, tout simplement. Voilà, c'est le message d'Apple, il révolutionne beaucoup aussi l'exil fiscal. Apple, on en parle beaucoup aussi pour ça, davantage aujourd'hui, peut-être presque pour les innovations véritables.
C'est vrai qu'il y a tout un problème avec les GAFA. D'ailleurs, ils concernent pas que Apple. Ils concernent Google. Ils concernent Facebook.
Amazon, donc.
Amazon. Il est lié finalement au caractère maintenant de plus en plus virtuel et immatériel des activités de ces entreprises, qui peuvent très bien avoir des activités dans certains pays, tout en ayant leurs sièges sociaux ou les sièges de leurs filiales dans d'autres pays qui sont des cieux fiscaux plus cléments. Mais enfin bon, il faut quand même dire que Apple, enfin là ce soir, on est autour du nouvel iPhone.
Tout à l'heure,
Et donc c'est vrai que la fiscalité, c'est quelque chose sur lequel toutes ces sociétés optimisent la fiscalité. En même temps, il y a quand même un génie d'Apple sur ces 10 dernières années. Steve Jobs disait que, et ça pouvait paraître un peu étrange pour des intellectuels, il disait que le smartphone, l'iPhone allait changer le monde. C'est vrai que par certains aspects, il a largement changé le monde que beaucoup d'idées. Il a vraiment complètement révolutionné l'humain, notre rapport à la communication aux autres. Et comme le disait Vincent, il est en train de transformer vraiment les relations humaines d'une manière extrêmement forte. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, tous autour de cette table, ce que nous craignons le plus de perdre, si on doit perdre quelque chose dans la journée, c'est notre smartphone qu'on a dans notre poche, qui est toute notre vie.
Julien Leclerc, sur ça, justement, sur ces smartphones, aujourd'hui, c'est vrai, il y a 10 ans, alors est-ce qu'on s'est pas un peu créé, comme disait Vincent, finalement, alors c'est bien, c'est formidable, en effet, moi le premier, je m'en amuse, mais je suis toujours dessus. Une nouvelle dépendance finalement ? À chaque fois on se crée des dépendances ?
Si, tout à fait. Alors d'abord, puisqu'on en est au moment des confidences, je tiens à préciser que je n'emmène pas de perche à selfie dans mes toilettes.
Très bien.
Cela soit dit.
Voilà, très bien.
On s'est créé une dépendance. Certainement, ce qui est assez incroyable sociologiquement, c'est, je trouve, la vitesse avec laquelle on a assimilé ces révolutions technologiques-là et avec laquelle on se les est appropriées. Effectivement, on peut plus s'en passer. Et c'est
vite, vrai
ce que Christophe Alix dit. Je pense que c'est sans doute le truc que j'ai le plus peur de perdre dans la journée. Et peut-être pour les dirigeants notamment, qui eux aussi ont des problèmes de santé, ou en tout cas ont besoin de prendre soin d'eux. C'est un vrai sujet. Je pense que les moments où je suis le plus détendu, c'est quand j'arrive à me barrer, à aller me balader dans ma campagne, en laissant mon téléphone chez moi. C'est très rare, mais quand j'y arrive, je suis hyper fier.
Ah, mais on se souvient d'ailleurs, juste là j'y pense, mais c'est vrai que pendant la campagne présidentielle, il avait eu cet épisode très étonnant de François Bayrou perdant son téléphone portable, et c'était la fin du monde pour lui. C'est vrai qu'il n'avait plus aucun contact, il ne savait pas comment appeler Emmanuel
Macron.
C'est
aussi la liberté. D'ailleurs, c'est ça. Il y a cette scène de la fin du film Le Diable s'habille en Prada, ou du livre aussi,
ouais,
où elle ne supporte plus d'être appelée l'assistante toutes les deux minutes, et elle passe à les places de la Concorde, il y a une fontaine, elle sort son portable, elle le jette dans la fontaine, et là, elle est libre comme l'air, plus personne ne sait ce qu'elle fait.
Voilà, c'est le geste le plus transgressif aujourd'hui du
c'est
monde.
Ça,
allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Jackie, Isabello, d'être
allez,
passé
Paris,
ce soir.
Parce que demain, on a peut-être les JO.
Ah bah oui, bah non, mais je pense qu'on les a, je veux pas dire. D'ailleurs, nous ferons une édition spéciale, puisque ça sera pendant les informés de France Info, à 20h03, que nous connaîtrons, voilà, enfin, que Paris soit olympique. Il y aura toute une édition spéciale le reste de la soirée. Merci, donc, Jackie, Isabello, merci beaucoup.
Merci. À
Julien Leclerc, la Une du Figaro, demain, Vincent Trémollet.
Ça revient sur le mouvement social en demi-teinte, si ce n'est plus, de la CGT.
La Une de Libération, Christophe.
Et la Une de Libération également sur le mouvement social, avec une métaphore footballistique. Macron 1, Fainéant 1.
Voilà, allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce
Nous revenons sur les manifs, mais la question, avec quelle gauche dans la rue ? Avec un socialiste bien connu, c'est Stéphane Le Foll.
Oui.
Nous aurons Bruno Cotterêts du Cevipof et une surprise, Assaël Adari. Il préside un cabinet d'études, il a compté les manifestants, il donnera le chiffre exact dans quelques minutes.
Donc c'est possible.
C'était votre débat tout à l'heure.
Exactement, c'est possible.